Cette semaine, nous allons aborder le sujet de la paracha Pekoudé sous un angle original. Parce que la paracha Pekoudé représente une exception dans le sujet des simanim. Je vais être explicite dans un moment. Voilà. Semaine après semaine, nous lisons la Torah. Il existe 54 sections. On les appelle paracha, sidra, péricope. Ces sections sont lues au cours de l'année, depuis Simchat Torah jusqu'à l'année suivante, au Simchat Torah de l'année suivante. Le nombre de versets de chaque section est connu. Il a été précisé par des rabbins qui s'appellent les rabbins Massorètes, les Baalei HaMassora, les maîtres de la tradition. Et grâce à eux, la tradition reçue a été conservée dans le détail. Ils sont eux-mêmes les héritiers des Sophrim qui, à l'époque du Deuxième Temple, ont précisé le texte en notant différentes particularités scripturales, des lettres plus grandes ou plus petites, des lettres suspendues, des points sur linéaires qui sont sur certaines lettres. Pour être sûr de la justesse de leur copie, les Sophrim comptaient les lettres, d'où leur nom, puisque l'ispor veut dire compter. Donc nous avons une tradition qui a déjà été mise par écrit par les Sophrim. Les Massorètes ont poursuivi le travail des Sophrim au niveau de la vocalisation et de la cantillation. Ils ont établi toutes les particularités du texte, pas seulement au niveau des lettres, mais au niveau donc des voyelles et des théanimes. Et c'est grâce, les théanimes sont les signes musicaux. Et donc, grâce à eux, on a toutes ces précisions qui sont bien entendu indispensables pour lire convenablement la Torah. Et cela était indispensable, cette démarche était indispensable, car à leur époque, la langue dans laquelle la Bible avait été rédigée n'était plus parlée, on parlait araméen. Nous bénéficions chaque jour de l'énorme travail effectué par les maîtres de la tradition et de leurs prédécesseurs, et leur activité a atteint son apogée à Tibériade il y a 1000 ans. Donc, nous avons un nombre de versets par paracha. Et ils ont exprimé ce nombre par un nombre, bien sûr, mais aussi par un siman, c'est-à-dire un signe mnémotechnique, un signe pour mémoriser facilement, qui correspondait à la valeur numérique du nombre. C'est-à-dire qu'il donnait un mot qui est donc un siman, en ce sens que la gématria de ce mot, l'addition de la valeur numérique de chacune des lettres de ce mot, eh bien, aboutissait à un total qui était justement le nombre de versets de la paracha en question. Donc, on a affaire à un moyen mnémotechnique commode. Eh bien, est-ce tout? Non. Au XXe siècle, Rabbi David Feinstein, qui est le fils de Rabbi Moshe Feinstein, a apporté un chidouche, une interprétation innovante extraordinaire. Il a affirmé que ces simanim dont on vient de parler n'étaient pas qu'un moyen de mémorisation, qu'ils représentaient aussi le message principal de chaque paracha. Eh bien, à partir de là, on se retrouve avec une toute autre perspective. Ce chidouche, peut-il être étendu également aux haftarot, c'est-à-dire aux extraits des livres des prophètes que l'on lit chaque semaine ou à chaque occasion. L'intuition du Rav David Feinstein, à propos de toutes les parachas de la Torah, eh bien, peut-on formuler l'hypothèse Il est possible d'élargir cette hypothèse, cette démonstration, cet enseignement à propos également des aftarot. Eh bien, en fait, on a pu vérifier, j'ai pu vérifier que, effectivement, la conclusion, la réponse à cette question est positive. L'hypothèse est vérifiée. À partir de là, eh bien, on se trouve avec une exception un peu dérangeante. C'est qu'il y a, et l'exception, vous l'avez compris, c'est justement la Haftara Pekoudé. Dans la Haftara Pekoudé, on a effectivement indiqué, au-dessous des derniers mots de la paracha, la petite ligne que l'on a dans tous les Chumashim ordinaires, hein, tous les Chumashim ont ceci décrit, le nombre de versets, et ensuite Siman, etc. Eh bien, vérifiez-le dans vos Chumashim, vous verrez à la fin du dernier sauf passouk, de leur dernier point final de la paracha, eh bien, on se trouve avec une petite ligne qu'on ne comprend généralement pas forcément. Et si on regarde bien cette ligne, par exemple, dans Pekoudé, vous avez la lettre Tsadé, puis Bet, donc on a 90 plus 2, 92, c'est exactement le nom de Psukim. Il y a donc écrit 92 versets. Et nous n'avons pas, contrairement aux autres parachats de l'année, nous n'avons pas quel est le ou les simanim. C'est ça l'exception. Et c'est ça qui explique que j'aborde ce sujet à propos de la paracha Pekoudé. Eh bien, cette exception, bien sûr, on pourrait se dire, ah mince, c'était presque vrai, c'était presque systématique, mais il y a une exception. Eh bien, en fait, d'ailleurs, les éditeurs du Chumash Safra, un roumage où justement le Rav a explicité ses chidushim à propos des simanim, eh bien, les éditeurs du roumage Safra ont exprimé leur étonnement. Et ils disent, inexplicablement, nous n'avons aucune note de ce genre à la fin du texte de la paracha Pekoudé. Donc, étonnement, on est tenté de répondre, eh bien, bon, il y a une exception, après tout, il peut toujours y avoir des exceptions. Eh bien, cette crainte est infondée. Comme nous l'a expliqué Rabbi Menachem Mendel Schneerson, Rabbi de Lubavitch, il a suggéré que cette annotation 92 versets pourrait bien être lacunaire et reproduite par les imprimeurs de manière fautive. Pour lui, il y a bien un siman, mais les imprimeurs ont raté le coche. Ils n'ont pas compris qu'il y avait un siman et ils ont laissé un blanc. En effet, l'indication des Massorètes devait être bli kol. Donc, Bli kol siman, et ça veut bien dire qu'il n'y a pas de siman. Bli kol siman, sans aucun, sans tout siman. Ok. Ce qui veut dire que ben, les imprimeurs ont tiré les conséquences de cette indication sans aucun siman. Et bon, ben, écoutez, on fait quelques lettres en moins. Hein, on n'a pas la peine de charger le texte pour dire qu'il n'y en a pas. On n'en met pas et c'est terminé. Mais ce faisant, ils ont supprimé par erreur ces mots qui était bli kol siman, sans tout siman. Or, ces mots précisément, selon la lecture du rabbin de Lubavitch, ces mots précisément indiquaient le véritable siman de cette paracha. Et c'est ce que l'on va essayer de comprendre à présent. En fait, nous avons dans cette paracha comment dire, donc 92 versets. 92 versets, et les mots en question, Bli Kol Siman, devaient indiquer ce qu'était cette paracha, et du moins le sens profond de cette paracha, mais on ne le trouve pas. Alors, le rabbin de Lubavitch, on l'a dit, a suggéré que cette annotation pourrait être lacunaire. OK? Et maintenant, il nous faut comprendre le sens. Puisque nous avons maintenant cet enseignement que Bli Kol Siman, eh bien, en définitive, ce serait le Siman. Eh bien, il faudrait, dans la perspective du rabbin David Feinstein, apporter le sens de ce siman, puisque nous avons cet enseignement du rabbi du Rav David Feinstein qu'il y a un sens et qui est le sens profond de la paracha abordée, puisque nous avons maintenant un siman grâce au rabbin de Lubavitch, ben ce siman, il faut le comprendre. Et comment le comprendre? Bli kol, donc il n'y a pas de kol. Siman, on ne va pas le traduire puisque ça désigne ces deux mots. Le siman, c'est blicol. Maintenant, qu'est-ce que c'est col? Bien, nous avons une allusion. Col signifie le chef du peuple. Donc, le message, on expliquera cela plus tard, dans un petit instant. Le message des Massorètes serait donc que tout le peuple juif est représenté par un authentique chef juif et que il est entièrement contenu dans l'âme de ce chef. Comme le remarque d'ailleurs, ce n'est pas une invention, cela découle d'un enseignement de Rashi dans la paracha Roukat. Rashi utilise là-bas le mot kol pour décrire le leader. Et il explique « Anassi ou akol », le chef est tout. Rashi indique que Moshe est Israël et le peuple d'Israël est Moshe. Cela veut dire que Moshe avait une neshama kolelet, une âme englobante, car le chef de la génération englobe toutes les âmes de sa génération, d'où cette expression, le chef est tout. Il en découle que Moshe et le peuple d'Israël sont une seule et même unité. Et de fait, pour la paracha ainsi que pour la haftara, ce siman peut être compris à la lumière donc de cet enseignement de Rabbi Menachem Mendel Schneerson de Lubavitch. Nous avons également un autre siman qui a été proposé ultérieurement, c'est le siman proposé par le Malbim, qui est différent, on le verra. Donc le Rabbi de Lubavitch a donc donné une explication convaincante. Premièrement, je me répète un peu, mais on avance, le siman des Massorètes n'a pas été compris par les imprimeurs. Ils l'ont supprimé. Et le rabbi donne une explication satisfaisante du lien de ce siman reconstitué avec la paracha. Blicol ne signifie pas qu'il n'y a pas de siman pour cette paracha, mais que ce signe mnémotechnique est justement ce qui a été supprimé par erreur, blicol. Donc, dans le prolongement de cette hypothèse, on peut essayer de maintenant bien comprendre cela. Nous avons les versets qui donnent, on va le démontrer en donnant deux versets. Il y est écrit, tout à la fin de la paracha, et la nuée couvrit la tente d'assignation, et la majesté divine emplit le Mishkan. Il est écrit ensuite, et Moïse et Moshe ne pouvaient entrer dans la tente d'assignation, car la nuée demeura dessus et la majesté divine emplissait le Mishkan. Or, que nous disent ces versets? La nuée descend et Moshe ne peut entrer. Or, cela signifie, si on veut bien comprendre ce qui est dit, que le Mishkan est sans Moshe, le Mishkan est blicol. À la lumière de ce que l'on vient d'expliquer, Kol, c'est le chef de la génération. Donc, le Siman décrit exactement la scène finale de cette paracha, qui est au fond l'essence même de cette paracha, le sens même de l'aboutissement de toute une série de parachas que l'on a étudiées depuis Teruma, le Mishkan, les matériaux, la construction, etc., etc. Eh bien, l'apothéose, c'est que Hachem, la nuée de gloire, eh bien, est disons, la nuée emplit les Mishkan, Moshe, à ce point que Moshe ne peut pas rentrer. On a donc une description complète, une adéquation parfaite avec l'intuition du Rav de Lubavitch. Alors ensuite, on a une deuxième, je m'appuie également un enseignement que m'a donné mon fils Rav Eliaou, qui m'a expliqué ces versets et également leur interprétation. Donc, il a donné une deuxième explication sur ce siman blikol. Donc, ça signifie bien ce que l'on a dit, donc je ne reviens pas, excusez-moi. Deuxième chose, c'est que on pourrait expliquer aussi ce verset autrement, non pas en blikol, donc on pourrait dire que le découlant de ce blikol, quelle est l'explication? C'est ce que nous cherchons maintenant, l'explication de ce mot blikol. On en a vu une première, qui est l'absence de Moshe, sans le chef de la génération. Deuxième explication, on pourrait faire dériver de blikol, Béal Yachol, c'est-à-dire sans pouvoir. Eh bien, en fait, Béal Yachol, qui voudrait dire sans pouvoir, de fait, Moshe n'a pas pu rentrer dans le Mishkan. Donc, ça pourrait tenir. Mais Rav Eliaou n'est pas très pour cette explication. Il trouve que cette explication est moins satisfaisante que la première, bien sûr, puisque dans la première, Bli Kol, on a deux lettres. Et dans la deuxième, on a deux lettres dans Bli. Et alors que dans Bal, on a aussi oui, mais ensuite dans Yachol, on se retrouve avec trois lettres au lieu de deux. Donc, même trois lettres, même si on enlève le vav en considérant qu'il est sous forme brassère. Donc, bon. Donc, on a une explication principale que l'on retient, c'est Blicol sans le chef de la génération et il n'est pas rentré dans le Mishkan. Voilà. Donc, nous voyons, à la lumière de cette démonstration, nous voyons que il n'y a pas exception, c'est ce que nous craignons. Ça marche partout. Et dans toutes les parachas, on a pu faire, il y avait d'abord un siman, il y avait un comptage de versets, un siman, Rav Feinstein a apporté l'explication de chacun de ces simanim, l'absence de siman dans la paracha, après la paracha Pekoudé, pouvait faire craindre que quelque chose ne fonctionnait pas. Ce n'est pas le cas. Alors, voyons également un autre siman qui est celui du Malbim. Ben, ce siman, c'est Etzé. Aleph, Tsadé, Aleph. Eh bien, là aussi, on se retrouve avec une explication qui serait. Bon, c'est un siman tardif en même temps. Je veux dire, ça n'a pas la force d'un siman des Massorètes, bien sûr, ou la force du siman du rabbin de Lubavitch, parce que lui a simplement décodé l'absence de siman qui était dans le texte, en quelque sorte. Cette absence dans le texte était signifiante. Donc, bli kol, ça avait du sens. Ce siman-là est donc une tentative de siman tardif pour essayer de réparer un peu la lacune. Mais ça mérite bien entendu une explication. Le Malbim est un très très grand rave. Donc, on sait que Hachem est descendu en exil avec son peuple. Et on peut comprendre ce siman Etzé parce qu'à la fin de l'exil d'Égypte, les Hébreux sont sortis d'Égypte, mais Hachem est sorti avec eux. Et donc, on pourrait comprendre que ce siman a du sens. De la même, bon, je pense qu'on a quand même démontré l'essentiel. Je voudrais juste faire une petite conclusion à propos que l'on tirera de l'un des simanim du Roumash à propos de la paracha Vayehi, à la fin du livre de Bereshit. Et les Massorètes écrivent que le siman et PLP Siman. PLP Siman. Et l'étonnement, c'est la répétition. PLP, et non pas P Siman. P, c'est la bouche. Un seul mot aurait suffi pour indiquer la Gématria 85, qui était le nombre de versets de la paracha en question. Mais ce n'est pas cela qu'ont fait les maîtres de la tradition. Ils ont donné un siman plus long, dont la Gématria ne correspond d'ailleurs même pas au nombre du verset, puisqu'on a P, L, P, ça fait 85 plus 31 plus 85 égale 201. Donc, or, les massorètes ne se répétaient pas sans raison. Ils avaient l'intention de donner une information pertinente sur le message. En ne citant que P. Siman, ils n'auraient donné aucun renseignement sur la paracha elle-même. La formule choisie renvoie au fait que le patriarche Jacob s'adresse à ses enfants et leur accorde les bénédictions qui se trouveront toujours au cœur de leur mission, comme nous l'explique Rav David Feinstein lui-même. Le message, le siman et le message sont concentrés dans la formule PLP, car ce n'est pas l'écoute qui est privilégiée, de bouche à oreille. Dans le travail de l'étude de la Torah, eh bien, on écoute un enseignement de Torah avec ses oreilles. Mais ensuite, ce qui compte, ce n'est pas seulement d'écouter, c'est de transmettre. Donc, il y a transmission active de la bouche des parents à celle des enfants ou des étudiants tout au long des générations. Cela signifie qu'il ne suffit pas, par exemple, qu'un père enseigne à son fils, même si le fils écoute attentivement. Eh bien, ça ne suffit pas. La mission d'un enseignant, c'est de transformer son élève en bouche, afin qu'à son tour, il soit un maillon actif de la transmission autour de lui aux générations à venir. De la même manière, quand on raconte des contes, des récits traditionnels, eh bien, ce n'est pas un moment de divertissement et c'est tout. Et on oublie tout de suite après. Non, le but, c'est que ces récits restent dans la mémoire collective et que celui qui a entendu le récit traditionnel, par exemple, des agadot du Talmud ou d'autres types de récits, eh bien, que l'élève, l'enfant, participe ensuite à raconter à son tour ces récits. Donc, PLP. C'est vrai pour la Torah, l'élève participe ainsi à la construction d'une chaîne dont les maillons continuent à être forgés par les enfants, les petits-enfants, les étudiants. Et que le mérite de tous ceux qui étudient la Torah fasse venir le Mashiach bientôt et de nos jours.